Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Propos, Christophe Jubien pour vous accueillir. Libre Propos, vous le savez désormais, c'est l'émission hebdomadaire de Radio Rancière qui vous permet d'entendre la parole de notre évêque sur des sujets divers et variés, parfois nationaux, parfois locaux, parfois internationaux, et nous allons justement en Allemagne. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Christophe.
Pour commencer cette émission, nous allons en Allemagne. Le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, a pris ses distances avec l'Église d'Allemagne lundi dernier. C'était quelques jours après la conclusion d'un chemin synodal mené outre-Rhin. Que se passe-t-il aujourd'hui dans l'Église allemande ? Elle a un statut particulier, cette Église ?
C'est l'Église qui est en Allemagne, effectivement, a fait un chemin depuis quelques années qu'on observe un peu, nous, de France, un peu différent. Je pense qu'il y a une culture ecclésiale qui dépend aussi un peu de la culture du pays. C'est un pays qui a été marqué très profondément par le protestantisme, beaucoup plus que nous en France, dans lequel l'Église vit de manière assez différente. Et qu'il y a un impôt religieux qui fait que l'Église reçoit beaucoup d'argent par l'État, hein, les prêtres sont payés par l'État, le statut est pas le même que le nôtre du tout, notre laïcité n'est pas la même que ce que eux vivent. Cet argent assez considérable donne des structures d'église importantes qui, entre parenthèses, donnent à cette église la possibilité de répondre à une mission que le gouvernement allemand leur donne, de s'occuper de la caritas. Chaque paroisse a des jardins d'enfants, chaque paroisse gère des centres d'entraide, d'aide. Chaque curé, finalement, devient un peu un chef d'entreprise avec 30, 50, 60 salariés, 100 salariés pour toutes ses œuvres.
Donc il y a une mission sociale qui est déléguée à l'Église par l'État, c'est ça ?
Complètement, complètement. Ce qui n'est pas le cas en France. Donc, mais aussi, ça donne du poids structurel à cette institution, l'Église en Allemagne, qui n'est pas le nôtre. Et en même temps, sont nées des revendications, on peut dire, théologiques au sein de l'Église allemande, avec un mouvement qui s'appelle Wir sind die Kirche, nous sommes l'Église, un mouvement revendiquant assez fortement des positions sur les mœurs, sur la morale, qui dérive ou qui dévie par rapport à ce que l'Église enseigne à la lumière de la parole de Dieu et de sa tradition, cherchant des issues nouvelles concernant les divorcés remariés, concernant la vie des prêtres, concernant les personnes à tendance homosexuelle. Aujourd'hui, profitant du synode que le pape a lancé, qui est censé nous faire réfléchir sur l'écoute de la parole de Dieu à la lumière de l'Esprit Saint pour comprendre où l'Esprit veut nous conduire, ce mouvement allemand qui n'est peut-être pas si unifié que ça, je ne pense pas que tout le monde soit d'accord en Allemagne, mais il est puissant parce qu'il use de médias assez forts. En tout cas, ils ont profité de ce synode pour affirmer et même décider de manière un peu unilatérale, assez récemment, des positions ecclésiales qui ne correspondent pas à ce que l'Église enseigne. Et donc, on est face à un bras de fer entre Rome, le pape, ses collaborateurs, l'Église en général et l'Allemagne. Sans compter que l'Allemagne, comme la France d'ailleurs aujourd'hui, n'est qu'une petite partie des 1,35 milliard de catholiques dans le monde. L'Église catholique est surtout en Afrique, elle est surtout en Amérique du Nord et latine. Elle est beaucoup en Asie aussi, avec les Philippines par exemple. Donc c'est complexe, cette tension qui se déploie par ces revendications que personnellement je ne comprends pas forcément et qui me semble plutôt humaine et opportuniste par rapport aux revendications culturelles de ce temps, mais pas dans notre tradition ecclésiale.
L'Assemblée nationale française examine depuis lundi le projet de loi portant sur l'accélération du nucléaire et la construction de nouveaux réacteurs en France à l'horizon 2035. On sait qu'on en a besoin pour récupérer un peu d'indépendance énergétique. Mais est-ce que l'Église, c'est une question que je me suis posée, a une position arrêtée sur la question du nucléaire ?
Bah, l'Église, bien sûr, techniquement, le nucléaire est une énergie extraordinaire. Que l'on peut utiliser tout à fait pour son usage civil. Il faut se rappeler qu'on a eu très peur de, bien sûr, après Fukushima, mais Fukushima, le problème n'était pas le nucléaire. Le problème, c'était un tsunami qui a surpris tout le monde et qui a noyé toutes les pompes qui étaient, par contre, positionnées trop près de la mer. Mais c'était pas le nucléaire en soi qui était un problème. Aujourd'hui, je pense que la sûreté nucléaire est très avancée. D'ailleurs, on nous dit dès qu'il y a une fente, quelque chose, une fissure sur un tube, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire techniquement. Est-ce que c'est important, pas important ? Est-ce que ça, voilà, eux savent très bien ce que c'est, je pense. Et moi, je ne suis pas inquiet du tout. Par contre, l'Église condamne absolument, comme immoral, l'usage du nucléaire à des fins militaires. Et ça, aujourd'hui, la voix de l'Église est claire. Le pape l'a rappelé. Je l'avais dit, moi, il y a 5 ans, en étant consacré évêque à Chartres, que je pensais que l'arme nucléaire est une folie. Certains pensent que la dissuasion est permise grâce au nucléaire, aux armes nucléaires. Je ne pense pas. Je pense que c'est une épée de Damoclès dangereuse qui, demain, sera dans beaucoup de mains, des mains pas forcément assurées, parfois violentes. On a vraiment à craindre la prolifération de l'arme nucléaire.
Je voudrais qu'on fasse un petit retour sur votre visite pastorale à la paroisse de l'Épiphaniste, encore tout frais, c'est du 10 au 13 mars. J'ai eu le programme. C'était chargé.
En fait, pas tant que ça, parce que l'Épiphaniste, ça correspond aux communes de Sours, de Houville-la-Branche, de Nogent-le-Fay et autour. Il y a 6 clochers, comme on dit, donc c'est pas très important. Il y a 8000 habitants. C'est le père Nicolas Bousset, jeune curé, qui s'en occupe avec des équipes de laïcs, une équipe pastorale, une équipe aussi économique, et puis des gens qui servent. On a fait un tour agréable. Il n'y a qu'une chose, c'est qu'il m'avait fait une surprise. Enfin, il avait prévu une surprise, mais ça a capoté, parce que c'était de m'emmener en ULM, voir la campagne vue d'en haut, et jusqu'à Chartres. Et il y avait 35 nœuds de vent, il faisait froid, il y avait des nuages. Et on a vu le président de l'entreprise qui gère le club du LM, qui a dit, il n'y a pas question, à 20 nœuds déjà, c'est dangereux, donc non, on ne s'en ira pas. Mais réservation est faite pour le mois de mai-juin, quand il fera beau. Voilà.
Alors, vous avez visité la microbrasserie de l'Aurélien, qui a été couronnée de succès au salon de l'agriculture, une fois de plus.
Eh bien, Migros, c'est plus une micro, hein, c'est une belle brasserie, au sens que... Vous savez, il nous disait que les magasins bio vendent des petits kits de matériel pour faire sa bière soi-même. Bon, très bien, mais en fait, quand je vois le process qu'ils ont mis en place, le nombre de cuves magnifiques en inox, la succession des opérations pour avoir de la bière, et surtout la qualité sanitaire des lieux, c'est-à-dire comment tout est aseptisé, comment tous les contenants, les bouteilles ou bien les fûts sont nettoyés. En tout cas, c'est un process long et c'est une très belle entreprise qui emploie, je crois, 16 personnes et dont le succès continue. Quoi. Enfin, ouais. C'est une belle entreprise.
Une médaille d'or pour l'Aurélienne Rousse cette année encore. Et puis, votre visite au collège Saint-Jacques de Compostelle et au lycée Franz Stock, c'est une semaine très active. Vous aimez beaucoup ce contact avec les jeunes.
Alors ça, c'était autre chose. C'était, ouais. La visite, effectivement, a lieu pendant 4 jours, du vendredi au lundi. Je suis rentré lundi soir après un petit bilan avec l'équipe pastorale, un bilan heureux de belles personnes et de belles choses. Et de fait, dès le lendemain, on m'a envoyé à 8h20 à Minières pour rencontrer donc des collégiens, des lycéens, des BTS. En fait, j'ai vu 6 groupes. Donc, en gros, c'était 6 fois 50 minutes, micro en main. Donc, c'était 6 heures presque non-stop de réponse aux questions des jeunes. Autant vous dire qu'il faut un peu de salive. Et aussi de vivacité, parce qu'il était 50, 80 face à moi à chaque fois. Beaucoup de questions, pas toujours, mais quand même finalement des questions sur plein de sujets qui touchent les jeunes. Je leur avais dit, moi, une question qui est intéressante, c'est celle qui vous concerne, pas ma vie à moi. Ma vie à moi, ça changera pas la vôtre. Mais voilà. Et donc, on a parlé de la vie, on a parlé de la mort, on a parlé du mariage, on a parlé de l'amour, on a parlé de plein de choses qui étaient aussi de leur réaction à ce monde, leurs angoisses. Voilà, j'ai senti qu'une part d'entre eux ont des angoisses devant l'avenir. J'essaie de comprendre pourquoi. Je me demandais pourquoi. Il y en a qui m'ont dit, les gens sont pas réfléchis. D'autres m'ont dit, les réalités écologiques, donc nous angoissent. Et partant de ça, j'essayais un petit peu avec eux de réfléchir. En tout cas, ça m'a beaucoup stimulé. Voilà, j'aime ça.
Il vous reste 2 minutes. Je souhaitais la semaine dernière qu'on parle d'un aspect de votre avant-dernier message fraternel. On n'avait pas eu le temps. C'était sur. C'est un point central du christianisme, finalement, l'abolition de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Jésus l'a aboli, ce qui est véritablement, on peut le dire, révolutionnaire. Malheureusement, cette loi du talion prévaut aujourd'hui encore dans les relations internationales. Comment imposer le pardon aux nations, c'est difficile, évidemment. Ouais.
Il faut comprendre que le talion, qui était une loi très ancienne, elle régulait la violence et la vengeance. Oui. C'est-à-dire qu'elle disait, par exemple, il y avait des lois dans la Bible, on trouve ça, quand un architecte voit la maison qu'il a construite s'écrouler et que l'enfant, le fils est mort, le fils du propriétaire est mort, eh bien on va tuer le fils de l'architecte. Quoi. Ça fait un pour un, quoi, œil pour œil, dent pour dent. Ça évitait les vengeances multiples. Du type, pendant la guerre 40, quand un officier allemand était tué par la résistance, les Allemands prenaient 20 prisonniers et fusillaient 20 bonhommes. C'était pas le talion, c'était 20 contre 1. Donc c'était loin de cette régulation. Aujourd'hui, donc le Christ, effectivement, dit qu'il nous faut pardonner, il nous faut aimer, ce qui n'empêche pas qu'il y ait une vraie justice humaine. Il faut que la justice se fasse, que si quelqu'un a fait un délit, un crime, il doit rendre compte devant la justice civile et accepter sa peine, qui préserve aussi la société de cette violence. Voilà. Donc après, on voit malheureusement que quand on n'a plus cette loi de Dieu, cette loi que Dieu, l'Esprit, inscrit dans le cœur de l'homme, une loi à aimer sans mesure, à aimer même, comme dira Jésus, son ennemi, reviennent très vite des comportements humains de type talion, c'est-à-dire que je vais me venger, il m'a fait mal, je vais me venger, une contestation forte, et même un désir de violence, par exemple devant des crimes, certains sont, c'est vrai, abominables, des violences conjugales où on retrouve une femme coupée en morceaux, certains seraient prêts à prôner à nouveau la peine de mort, c'est-à-dire que elle a été abolie dans beaucoup de pays, elle demeure dans certains pays comme la Chine, par exemple, de manière dramatique, avec des milliers d'exécutions par an. Mais on voit que l'humanité n'est pas forcément tout le temps en croissance, en développement, dans le respect de la vie. Et on peut facilement revenir, pour des raisons politiques, des raisons opportunistes, à des formes de violence et même de torture. Donc c'est là où il nous faut cette source. Et pour nous, l'Évangile, le Christ, le visage de Jésus, plein d'amour pour chacun, pour chaque personne, nous appelle à cette compassion, même vis-à-vis de celui qui a fait le mal. Il y a une rédemption, il y a une espérance.
Il y a une espérance. Merci beaucoup, Monseigneur. Cette émission, chers auditeurs et auditrices, vous pourrez la réécouter bien évidemment sur notre site en podcast, www.radioranciel.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Libre Propos.